France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, un rendez-vous à retrouver chaque samedi à 8h30 sur France Info Radio, France Info Télé, en compagnie de Yannick Halimi. Bonjour Yannick.
Bonjour Mathieu.
Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et c'est vous Yannick qui, comme chaque semaine, posez la première question à notre invitée Sandrine Rousseau, économiste, ex-porte-parole nationale et ancienne secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie des Verts, auteur du livre Parler aux éditions Flammarion.
Voilà. Bonjour Sandrine Rousseau. Mathieu, parlez de votre livre Parler. À propos de toutes les agressions faites aux femmes. Vous allez en parler, si je puis dire, de façon plus abondante tout à l'heure. Mais juste une question d'actualité. Le scandale Weinstein aux États-Unis à Hollywood prend une ampleur inattendue, on peut dire. Comment expliquez-vous justement l'importance que prend ce scandale? C'est parce que Monsieur Weinstein est sur une pente descendante en termes de pouvoir, de puissance financière et culturelle, j'allais dire.
La parole se libère à des moments où elle peut se libérer. Ça, c'est sûr que ça fait partie de ces moments s'il est,
Pourquoi aujourd'hui?
Et ça, il faudrait demander déjà aux femmes pourquoi elles parlent aujourd'hui. Mais la question, c'est surtout pourquoi ça a duré aussi longtemps. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Et là, il y a quand même quelque chose à analyser de l'ordre de qui n'a pas voulu entendre, pourquoi on n'a pas voulu voir, qu'est-ce qui s'est passé pour que on puisse comme ça faire taire les femmes et que tout le monde accepte
faire
ce système-là.
Faire taire ou que les femmes se taisent elles-mêmes?
Oui, mais il y a aussi des femmes visiblement qu'on a fait taire. C'est-à-dire que, et ça, la question, c'est pourquoi on n'entend pas les violences sexuelles, pourquoi on considère pas que c'est un problème quand un homme se livre à ces actes-là. Et l'affaire Weinstein, elle nous dit ça. Et après, il va falloir qu'il soit condamné. Parce que pour l'instant, les hommes qui sont dénoncés comme ça, à ma connaissance, il n'y en a pas encore qui ont été réellement condamnés. Donc aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que cet homme-là soit condamné? Le viol étant imprescriptible aux États-Unis, il y a peut-être une chance.
C'est d'ailleurs ce que vous dites dans votre livre Parler, et l'association que vous représentez aujourd'hui qui porte le même nom, Parler, je vous cite, pour ne plus être victime, dénoncer est le seul remède. Vous rappelez aussi ce chiffre assez glaçant, qui est qu'en France, seulement 1% des agresseurs sexuels sont condamnés par la justice.
Agresseurs et violeurs.
Cette affaire Weinstein prouve qu'il faut parler à tout prix, malgré aussi les commentaires qu'on entend sur le fait que parfois certaines parlent tard. Vous expliquez très bien dans votre livre d'ailleurs pourquoi parfois on parle tard, parce qu'on n'a pas le choix.
Je pense que là, quelque chose est en train de monter de l'ordre de la révolte des femmes. Ça, je le ressens vraiment très fortement. C'est-à-dire que les femmes commencent à s'organiser pour prendre la parole et pour dénoncer les faits dont elles sont les victimes.
Après, donc ce qui se passe, c'est une sorte de reprise de pouvoir, pour employer de grands mots, bien sûr, mais enfin de rééquilibrage.
De rééquilibrage pouvoirs, plus que
voilà,
de prise de pouvoir.
Entre les hommes et les femmes, c'est peut-être
c'est une dénonciation, paradoxalement on accepte
le bon,
plus.
Côté, côté de ce qui se passe aujourd'hui.
On n'accepte plus ce système. Et ça, je pense que c'est vraiment une forme de révolution douce qui est en train de se passer. Après, il faut que la justice suive, parce qu'aujourd'hui, il y a 1%, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, uniquement des agresseurs et des violeurs qui sont condamnés. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 99% qui continuent tranquillement leur vie.
Il y a très peu de contentieux aussi, il y a très peu de procès qui sont faits.
Oui, il y a beaucoup de plaintes qui sont classées.
Ce qui explique aussi qu'il y a très peu d'hommes
condamnés. Parce que la justice ne se donne pas les moyens d'enquêter, parce qu'on ne considère pas que ce sont des crimes et des délits qui méritent d'être regardés de près. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de changer, du moins, c'est ce que j'espère.
Alors, écoutez, sur le thème du machisme, du sexisme aussi en politique, ce que disait hier sur notre antenne Florence Portelli, candidate à la présidence des Républicains.
Je pense pas qu'il y ait une omerta. En revanche, le sexisme et le machisme, je peux vous dire que parfois, même en lisant certains commentaires, je le ressens encore.
De quelle manière ?
La condescendance. Moi, j'ai parfois lu aussi tous les autres concurrents, ils avaient une vraie légitimité, une vraie ambition noble. Moi, j'étais celle qui voulait se faire connaître, alors que je suis là pour défendre des idées. Je pense que c'est sincèrement lié au fait aussi que je sois une femme.
On parle d'Hollywood avec Weinstein, on parle de politique avec votre ouvrage, mais aussi avec ce que vient de dire Florence Portelli. Il y avait un article du Monde aussi hier qui disait que dans l'économie, qui est un secteur que vous connaissez bien, il y a aussi beaucoup de sexisme et de machisme. Ça veut dire qu'en fait, aucun domaine n'échappe à ce fléau, pas seulement ce dont
mais
on parle dans les médias. Ouais.
Aucun domaine. Et le fait que Weinstein fasse autant de vagues, c'est parce que c'est à Hollywood, mais il ne faudrait pas qu'il masque la forêt qu'il y a derrière, parce que dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les associations, partout en fait où il y a des positions de pouvoir, il y a des comportements de ce type-là. Donc évidemment que dans la politique, il y en a. Et c'est d'ailleurs... Permettez-moi quand même de noter qu'en France, il n'y a pas tant d'affaires que ça qui sortent, alors que pourtant, et à mon avis, il y a matière à en sortir beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement. Donc, on est encore dans une forme d'omerta. On essaye de bouger les lignes, mais aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Mais je compte sur les femmes pour s'organiser et parler. Ceci est un message.
Jeanne Calimi.
Oui, juste une question qui va nous permettre de faire le lien avec, avec la suivante. Nous avons une secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui semble, comme on dit, proactive aujourd'hui dans le secteur qui est le sien. Que pensez-vous de Marlène Schiappa et surtout de son action, de ses discours, enfin de la trajectoire, comme on dit aujourd'hui, dans laquelle elle se place?
Elle a mis la lutte contre les violences faites aux femmes en priorité. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai aussi apprécié le fait qu'elle saisisse le CSA suite à...
Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau.
C'est la première fois qu'on l'affiche à ce point-là. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que je pense qu'en effet, ça doit être une priorité. Après, là, le 25 novembre, il y a la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il faudrait qu'à cette occasion-là, il y ait des annonces assez fortes qui soient faites en matière de traitement par la justice et par la police dans les commissariats, des plaintes qui sont déposées par les femmes et qu'on prenne en compte toutes les spécificités de ces violences. Et j'espère aussi qu'en 2018, on aura des annonces assez fortes de soutien aux associations, notamment parce que les associations de défense des victimes et de soutien des victimes sont débordées aujourd'hui.
Puisqu'on parle de Marlène Schiappa, elle a fustigé un mercredi la une de l'hebdomadaire Les Inrocks avec Bertrand Cantat qui sort un nouveau disque. Est-ce que vous trouvez comme elle que c'est insupportable? Ce sont ses mots.
Bertrand Cantat a tué une femme. Qu'il fasse la une d'un journal comme Les Inrocuptibles.
Il a écopé sa peine, il a payé sa dette à la société.
Ce qui vous gêne, c'est la promotion, la mise en avant. Il a le droit de faire de la musique, mais
on a pas le droit à une autre chance.
Enfin, on a eu d'autres exemples là, avec le film par exemple de Gauguin, où Gauguin épouse une jeune fille de 13 ans et c'est pas dit dans le film. On a vraiment un problème. Il y a Polanski aussi avec plusieurs plaintes quand même de mineurs contre lui. Aujourd'hui, les artistes en France, on a tendance à mettre en avant leur art. On n'a pas tendance à regarder complètement ce qu'ils ont fait. Je pense que Bertrand Cantat en une des Inrocuptibles, c'est une erreur.
Le 8h30 politique.
C'est plus qu'une erreur, c'est une faute.
Le 8h30 politique se poursuit sur France Info avec Jeanne Calimi et avec Sandrine Rousseau. À 8h40, c'est l'info et c'est David Doba.
La nouvelle directrice générale de l'UNESCO est une Française. Elle s'appelle Audrey Azoulay, c'est l'ancienne ministre de la Culture. Elle a été désignée hier soir. Le résultat de l'élection doit maintenant être validé par la conférence générale des États membres. Ce sera le 10 novembre prochain. Cette semaine, l'institution a connu quelques remous avec notamment deux retraits, celui des États-Unis et celui d'Israël. Donald Trump menace de mettre fin à tout moment à l'accord de Vienne signé sur le nucléaire iranien. Dans un discours très offensif hier soir, il a affirmé qu'il ne certifierait pas le fait que Téhéran respecte ses engagements. Ce texte est, selon lui, le pire jamais négocié par les États-Unis. Bilan une nouvelle fois revu à la hausse en Californie. Ce sont au moins 33 personnes qui sont décédées dans les incendies qui ravagent le nord de la région. 90 000 hectares sont partis en fumée depuis dimanche. Et puis, suite de la 9e journée de Ligue 1, aujourd'hui, à 17h, le PSG se déplace à Dijon. À suivre également à partir de 20h, Toulouse-Amiens, Lille 3, Guingamp Rennes, Saint-Étienne-Metz et Caen Angers. Hier, Monaco a chuté, battu 3-2 à Lyon.
France Info. Merci David, 8h30 politique sur France Info, toujours en compagnie de Jeanne Calimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et de notre invitée Sandrine Rousseau, ex-porte-parole nationale, ancienne secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, auteur du livre Parler aux éditions Flammarion. Jeanne.
Nous enchaînons sur les problèmes politiques.
Allez-y, je vous en prie.
Bah écoutez, il y a la maire de Paris qui vient d'annoncer un plan de suppression, même si elle est plutôt un peu en retrait par rapport à ce que dit la presse de son projet, mais peu importe. Enfin, le projet général va dans ce sens de suppression de voitures thermiques à l'horizon 2030 dans la capitale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
La pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique liée aux voitures est un sujet, et c'est un sujet de société pour le coup aussi, puisque ça fait des morts, ça fait beaucoup de morts. Aujourd'hui, Paris est une des villes, une des capitales d'Europe où il y a le plus de voitures, parce que si vous allez dans d'autres capitales, allez à Berlin, à Copenhague, il y a beaucoup moins de voitures qu'on en a à Paris. Donc oui, il faut faire reculer la place de la voiture dans cette ville. Après, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas simple, mais c'est une décision courageuse. On peut sans doute aller un peu plus loin encore, mais là, pour l'instant, c'est une décision courageuse, saluons-la.
Sur la méthode de la municipalité d'Anne Hidalgo, on sait que c'est un sujet qui est assez clivant. D'ailleurs, on parle quasiment que de pollution quand on évoque le mandat de la maire de Paris. Écoutez ce que disait, c'était mardi sur RTL, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Sébastien Lecornu, sur la méthode Hidalgo.
Moi, je pense qu'il y a un problème de méthode. J'ai été maire, je pense qu'il faut davantage concerter les Parisiens sur ce sujet, les Franciliens également qui sont parfois impactés. Je parle pas du fond de la mesure qui peut marquer une forme d'avance intéressante. Mais une fois de plus, on peut pas le faire contre les Français. Et d'autre part, il faudra évaluer. Parce que tout ce que l'on fait dans ce pays doit être évalué, y compris dans les collectivités territoriales, et ça vaut également pour la maire de Paris.
Alors, Sandrine Rousseau, Anne Hidalgo et son équipe sont régulièrement critiquées pour une politique jugée anti-voiture. Et mardi, en même temps, l'organisme Air Parif a dit que la fermeture des voies sur berge n'avait pas eu d'impact significatif sur la pollution. Finalement, qui a raison ?
Ça n'a pas d'impact significatif sur la pollution parce que ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aller, plus loin. La diminution de la place de la voiture, c'est vraiment une politique d'avenir. Après, sur la méthode, évidemment que des décisions de cet ordre sont toujours contestées. Enfin, souvenez-vous des débats qu'il y avait eu au moment où on imposait, par exemple, la ceinture de sécurité dans les voitures, où on estimait que c'était une atteinte à la liberté individuelle de mettre une ceinture de sécurité. Aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait que la ceinture de sécurité est une mesure indispensable pour préserver la santé. Là, on est dans un dispositif où il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui ont de l'asthme, des allergies, qui ont des insuffisances respiratoires à cause de ces voitures. Il est temps aujourd'hui de regarder le problème en face. Mais
Sandrine Rousseau, l'enquête d'Air Parif confirme d'ailleurs tout ce qui avait été dit auparavant, c'est que les progrès faits sur la pollution en matière de pollution, peut-être à Paris, sont en fait les problèmes générés sont reportés dans les zones.
Et la pollution elle-même d'ailleurs.
C'est ça, sont reportés dans les zones périphériques. Donc, et quand vous dites aller plus loin, ça veut dire quoi ? Supprimer la voiture dans la grande banlieue également ?
C'est pour ça que c'est un plan qui doit être mis en place, non pas à l'échelle uniquement de la ville de Paris, mais à l'échelle d'Île-de-France, c'est-à-dire de l'ensemble de la zone, et qu'on doit substituer la voiture à d'autres transports qui soient à la fois non polluants,
Des transports
peu cher,
en commun, quoi.
Peu cher.
Sauf que ça prend des années pour les mettre en œuvre.
Mais c'est pas forcément que des métros, c'est aussi des voitures électriques partagées, par exemple. C'est aussi l'accès à d'autres mobilités. Enfin, aujourd'hui, on a tout à inventer encore en matière de mobilité qui soit peu chère, très facile à utiliser et non polluante. Ce type de mesure va aussi permettre le progrès de ce point de vue-là, parce que aujourd'hui, les primes à la voiture, c'est exactement ce qui interdit tout progrès en fait en matière d'automobile, puisqu'on se contente d'améliorer un peu le moteur. Mais là, on doit réinventer complètement notre mobilité. C'est un enjeu passionnant, y compris pour des entreprises et pour notre organisation collective.
Alors, il y a eu beaucoup de sujets sur l'environnement et l'écologie dans l'actualité cette semaine. On va revenir dans un instant sur Nicolas Hulot et ses propos sur sa place au gouvernement. Mais jeudi, Greenpeace a tiré un feu d'artifice, des images spectaculaires, devant la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle pour alerter sur, je cite, les lacunes flagrante de sécurité du parc français. Vous appuyez cette démarche ?
Ah, mais Greenpeace fait un travail absolument formidable pour dénoncer les failles dans le nucléaire. Aujourd'hui, on est dans un mythe total en France qui consiste à dire que le nucléaire est sûr. On voit bien que c'est tout sauf sûr. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des failles de sécurité, à la fois, l'énergie nucléaire en elle-même n'est pas sûre. Et en plus, elle coûte extrêmement cher et elle va coûter de plus en plus cher. Donc ça aussi, ça fait partie des défis que l'on doit affronter, qui est de dire mais comment on remplace le nucléaire par des énergies renouvelables et par des énergies propres. Et Greenpeace, quand il fait ça, a vraiment la qualité de montrer à quel point c'est facile, quoi, de rentrer dans une centrale nucléaire et d'y faire n'importe quoi.
Alors Sandrine Rousseau, on va parler de Nicolas Hulot, qui est, j'allais dire, la caution verte d'Emmanuel Macron, mais pas seulement une caution. Donc ces derniers temps, cette semaine, hein, il a évoqué, j'allais dire, une fois de plus, sa possible démission, sans bien sûr être catégorique si la politique du gouvernement allait dans un sens qui n'était pas le sien, notamment sur la question de Notre-Dame-des-Landes, qui est d'ailleurs d'actualité cette semaine. Est-ce que vous pensez que, pour le moment, Nicolas Hulot a raison de rester dans le gouvernement et de faire confiance donc à la ligne d'Emmanuel Macron ?
Nicolas Hulot, il a la position qu'ont eu tous les ministres écologistes dans les gouvernements, c'est-à-dire qu'il est un peu seul et il doit se battre un peu seul contre un gouvernement qui n'est pas sur la même ligne que lui. On le voit sur le glyphosate. Le glyphosate, c'est un pesticide, c'est cancérigène, ça devrait être arrêté. Et puis on voit bien que c'est compliqué.
Donc sur la question CETA également, sur le CETA, sur les assises d'alimentation où il a été très peu consulté,
mais sur le nucléaire aussi. Il y a plein de sujets sur lesquels il n'arrive pas à avancer.
Mais est-ce que ce n'est pas le propre d'un écologiste qui rentre dans un gouvernement et qui doit penser pratique plus que doctrinal, peut-être, ou
en enfin, tout cas penser pratique. On ne dit pas ça au ministre de l'Agriculture qu'il pense pratique quand même. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'écologie, on a l'impression que on s'affronte à quelque chose qui est exceptionnel et qu'on n'arrive jamais à gérer.
Ce que veut dire cette Yannick, c'est qu'on a l'impression que quand on est ministre de l'écologie, on est dans une position forcément inconfortable et qu'il faut ronger son frein.
Parce qu'il y a des problèmes sociaux automatiquement lorsque on veut toucher au parc nucléaire, ne serait-ce que pour cela.
Oui, mais la question c'est à quel quand est-ce qu'on arrête d'essayer de faire avancer les choses et quand est-ce qu'on renonce? Est-ce que c'est plus important de renoncer et du coup de faire un clash politique pour dénoncer
alors
les conditions dans lesquelles on travaille?
Alors, d'après vous, il doit partir là pour la ligne rouge a été franchie.
Mais moi,
vous,
je suis pas dans la tête de Nicolas Hulot, donc je dois pas le dire. Simplement, moi, je dis que sur le glyphosate, par exemple, il faut qu'il obtienne un arbitrage. Parce que sur le glyphosate, c'est du Roundup, c'est dangereux pour la santé. Il faut absolument qu'il obtienne un arbitrage favorable là-dessus. Et ça, pour moi, c'est s'il y arrive, alors quelque part, il peut faire avancer les choses. S'il n'y arrive pas, eh bien, il faudra qu'il tire les conséquences, parce que c'est quand même pas une décision majeure. C'est pas quelque chose qui révolutionne complètement notre système.
Pour vous, c'est un marqueur Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
Ah, Notre-Dame-des-Landes aussi, mais là, la question aujourd'hui, c'est le glyphosate. Notre-Dame-des-Landes, ce sera dans un ou deux mois.
La politique, pour en parler rapidement, la politique environnementale, écologique d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, vous la voyez, vous la constatez, vous la comprenez?
D'Emmanuel Macron, non, pour l'instant, je la vois pas et je la constate pas. Après, je sais que Nicolas Hulot a vraiment une volonté de faire avancer les choses et je salue cette volonté, vraiment, parce que je sais que c'est compliqué aussi de vouloir faire avancer les choses contre les lobbies. Mais aujourd'hui, la question, c'est les arbitrages, justement, présidentiels et ça, il faut qu'il en obtienne.
La convergence de l'essence et du diesel, la trajectoire carbone, c'est-à-dire l'augmentation des taxes carbone,
tout ça va dans
qui
le bon sens.
Qui est accéléré, c'est quand même tout deux, ça va dans deux bon éléments sens, mais fondamentaux que met en œuvre Emmanuel Macron avec Nicolas Hulot.
Tout ça va dans le bon sens, mais c'est tardif aussi. L'interdiction du diesel, par exemple, c'est trop tard. Enfin, voilà, il faut le faire plus tôt. Ceci, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et donc, ce qui va dans le bon sens, il faut le saluer. Après, encore une fois, il y a des choses qui sont des choses symboliques, mais pas que symboliques, c'est-à-dire qui ont aussi une importance en matière de santé. Et il faut que Nicolas Hulot arrive à imprimer sa marque sur ces débats-là.
On l'a compris.
8h30 politique, ça continue sur France Info. 8h50, c'est l'info avec David Doba, tout de suite.
Le groupe État islamique sur le point d'être vaincu à Raqqa. La ville pourrait d'ailleurs être libérée aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'indiquent ce matin les milices kurdes. Les djihadistes avaient fait de cette ville conquise en 2014 leur capitale. Donald Trump durcit le ton sur l'Iran. Il a menacé de mettre fin à tout moment hier au cours d'un discours l'accord de Vienne, accord qui vise à empêcher le pays de se doter de la bombe atomique. Il a confirmé qu'il ne certifierait pas le fait que Téhéran respecte ses engagements. Une vingtaine de mobilisations un peu partout en France. Ce sera le cas à Rennes, à Toulouse ou bien encore à Paris cet après-midi. Des rassemblements pour protester contre la baisse des APL, les aides personnalisées au logement. Dans la capitale, le rendez-vous est fixé à 16h devant l'hôtel de ville. Et puis Emmanuel Macron parle aux journalistes. Alors chez nous, ce sera demain soir à la télévision. Pour le moment, eh bien, c'est en Allemagne qu'il s'est prêté au jeu de l'interview. Dans Der Spiegel, il affirme ne pas être arrogant, mais mettre fin au copinage avec les politiques et les médias. Selon lui, un président ne doit pas être constamment en train de parler à la presse. Et le fait qu'il parle à la presse n'a rien à voir avec le fait ou non d'être proche du peuple.
France Info. Et le 8h30 politique continue sur France Info jusqu'à 9h, toujours en compagnie de Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et de notre invitée Sandrine Rousseau, ex-porte-parole nationale et ancienne secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, auteur du livre Parler aux éditions Flammarion. Alors selon la formule consacrée et les éléments de langage fournis par la majorité elle-même, après avoir libéré le travail, le gouvernement entend désormais protéger avec son deuxième chantier social, protéger les Français et les travailleurs. Écoutez ce qu'on disait sur France Info jeudi, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien Denormandie.
La liberté n'est rien si vous n'avez pas beaucoup de protection. Et cette protection, c'est de partir du quotidien des Français. Et encore une fois, l'assurance chômage en est un merveilleux exemple. Quand vous êtes indépendant, que vous prenez le risque d'être indépendant, vous devez pouvoir avoir accès au chômage si ça ne marche pas. Quand vous êtes salarié, que vous voulez créer quelque chose, vous devez pouvoir avoir accès à l'assurance chômage si vous démissionnez pour pouvoir entreprendre. C'est ça le juste milieu.
Donc en gros, si on a bien compris, flexibilité dans un premier temps, protection dans un deuxième temps avec l'assurance chômage et la formation, c'est de la communication. Vous trouvez que la méthode est plutôt la bonne dans ce que fait le gouvernement actuellement, Sandrine Rousseau ?
Alors, la protection des salariés, en particulier des indépendants, est un sujet parce que les travailleurs indépendants aujourd'hui, et particulièrement les auto-entrepreneurs, sont dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Donc, il faut davantage les protéger. C'est un enjeu. Après, il y a aussi la protection des salariés au sein des entreprises. Et là-dessus, j'attire l'attention sur le fait que, par exemple, en cas de harcèlement et d'agression, il faut qu'il y ait des instances au sein des entreprises qui puissent entendre les personnes qui se plaignent, les victimes, les femmes. Et là, aujourd'hui, ces instances-là sont mises en danger par les réformes qui sont proposées. Donc, la protection, oui, mais la protection d'une manière générale et les indépendants, évidemment. Et là, on a quand même l'impression que c'est un peu déséquilibré entre la libéralisation et la protection. Mais je ne doute pas que dans les prochains mois, on va avoir des mesures intéressantes en matière de protection.
Sandrine Rousseau, il y a Emmanuel Macron qui, un peu à la surprise générale, on ne s'y attendait pas, va faire une grande émission, la première, demain sur TF1 et LCI. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est une bonne initiative ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Et qu'est-ce que vous attendez du président de la République demain soir ?
Déjà, c'est bien qu'il se prête aux questions parce que pour l'instant, on avait quand même l'impression qu'il déroulait une forme de communication, mais qu'il ne se confrontait pas à l'altérité, à l'adversité même. Or, sa fonction de président de la République l'oblige quand même aussi à s'expliquer et à entendre les remarques qui lui sont faites. Donc, le fait qu'il se confronte aux journalistes, je trouve que c'est une très bonne chose. Et j'espère que cette émission permettra qu'il entende aussi les critiques qui peuvent lui être adressées et qu'il ne soit pas uniquement dans le déroulé d'une communication très ficelée, ce qui pour l'instant donne un peu cette impression.
Alors justement, vous attendez quoi de la part du président de la République ? Qu'il soit plus offensif sur les questions sociales dont Mathéou vient de parler, sur les questions sociétales, par exemple, sur le harcèlement ou des questions comme la PMA ? Et puis peut-être une dernière phase, un dernier domaine sur l'Europe. D'ailleurs, on ne connaît pas trop vos positions sur l'Europe. Est-ce que vous espérez qu'il soit plus offensif également sur l'Europe et dans quels termes ?
Alors, offensif sur l'Europe, il l'est. Ça, pour le coup, on peut saluer ses positions.
Et ça, ça vous convient ?
Ah, moi, je pense que l'Europe est un des enjeux et qu'il faut reprendre une forme de leadership en Europe. C'est indispensable. Il est en train de le faire et ça, c'est bien. Après, sur les questions sociétales, il faut qu'il fasse des annonces, en effet, alors sur la PMA, parce que cette espèce de débat là qui s'étiole, la PMA,
c'est soit bien sûr pour étendre la PMA.
Mais la PMA, c'est soit pour tout le monde, soit pour personne. Mais ça peut pas être sur des valeurs de mariage ou quoi. C'est soit la PMA est ouverte à toutes les femmes, soit elle est interdite à toutes les femmes. Aujourd'hui, elle est ouverte et elle est autorisée uniquement à une partie des femmes. Pour moi, ça n'est pas possible. Et puis, après, sur harcèlement, agression, je serais extrêmement heureuse qu'il présente un plan de lutte contre les violences faites aux femmes et de reconnaissance de ces violences. Ça, parce que pour l'instant, on est dans l'émotionnel autour de ces questions-là.
Ça, il faut passer dans le politique. Pensez que c'est possible, que c'est pas plus culturel que...
Il n'y a pas de culture là-dedans. Hein. Dans la domination et la prédation et les violences, il n'y a pas de culture. Il faut qu'il donne à la justice les moyens d'enquêter. Il faut qu'il donne au commissariat les moyens d'entendre les femmes. Il faut aussi qu'il annonce des mesures. Par exemple, moi, je pense que le viol doit être imprescriptible. Eh bien, ce serait bien qu'il l'annonce. Et puis après, sur le social, il faut quand même qu'il rééquilibre aussi un petit peu parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il s'est beaucoup attelé à l'ISF, à ceux qui étaient le plus riches. Il faut qu'il ait... À mon avis, il est urgent de donner des signes aux personnes les plus faibles parce qu'il y a quand même un enjeu.
Alors désolé parce qu'il nous reste une minute, vous savez ce que c'est, l'audiovisuel, ça va trop vite, très vite. Il y a quelques jours, l'écrivaine Anne Berth, puisqu'on parle des questions de société, elle était atteinte d'une maladie incurable, elle est morte par euthanasie en Belgique. Vous-même, vous plaidez depuis des années pour, je cite, la légalisation du suicide assisté. Les choses ne bougent pas en France, ou en tout cas pas assez. Et finalement, le débat qu'on relance régulièrement sur le sujet ne va pas assez vite.
Voilà, le livre d'Anne Verte, je pense, va marquer aussi les esprits là-dessus, parce que c'est une femme qui est très digne et qui a montré à quel point elle voulait mourir dignement, parce que c'est ça le sujet, hein, c'est ne pas laisser la mort nous dégrader, mais au contraire, être maître de son destin jusqu'au bout. Et la mort est une étape très importante dans sa vie, puisque c'est la fin, c'est le point final. On pourrait avancer beaucoup plus sur ces questions-là. J'ai entendu Gérard Collomb dire qu'il fallait une loi sur la fin de vie. Je m'en réjouis et j'espère que aussi ça fera partie des annonces de demain.
Merci Sandrine Rousseau d'être venue ce matin sur France Info. Malheureusement, on n'a pas le temps sur France Info, radio et télé. Merci à vous. Merci Jannick Halimi. Vous aurez d'autres questions la semaine prochaine. Merci. On se retrouve samedi prochain en tout cas pour un nouveau 8h30 politique. Merci à tous.